Bonjour à toutes et à tous. Au micro, Mouhamadou Oumfa pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, édition matinale du jeudi 2 janvier 2025. Voici le sommaire. Ici aux États-Unis, un individu a précipité sa voiture sur une foule qui fêtait le Nouvel An mercredi dans la Nouvelle-Orléans, faisant au moins 15 morts et une trentaine de blessés. Le FBI évoque un probable acte terroriste. Toujours aux États-Unis, les droits des propriétaires des armes à feu seront davantage protégés, a promis le président élu Donald Trump, qui entre en fonction le 20 janvier.
Au cours de mon second mandat, nous ferons reculer toutes les attaques de Joe Biden contre le deuxième amendement. Les attaques sont rapides et furieuses. Elles commenceront à la minute où Biden quittera la Maison-Blanche.
Plus de détails à suivre dans une dizaine de minutes dans la partie magazine. Au Burundi, le principal opposant Agathon Rwasa écarté de la course aux élections législatives prévues en juin. En RDC, au moins 12 personnes sont mortes dans de nouvelles attaques des rebelles ADF dans la nuit de mardi à mercredi. Dans une dizaine de minutes, les nouvelles économiques avec Abdourahman Dia et les sports présentés par Nani Talani. Mais pour commencer, voici le journal. Ici aux États-Unis, un Américain a percuté une foule dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans, faisant 15 morts et 30 blessés, selon un dernier bilan. L'attaque, qualifiée de carnage par la police locale, est considérée par le FBI comme un possible acte terroriste avec des liens présumés avec le groupe État islamique. Nani Talani.
L'attaque a eu lieu vers 3h15 locale dans le Vieux Carré, le quartier français de la Nouvelle-Orléans, où un homme au volant d'un pick-up a foncé dans la foule, essayant d'écraser le plus de personnes qu'il pouvait, selon une chef de la police locale, Anne Kirkpatrick. Il était farouchement déterminé à provoquer un carnage, a-t-elle insisté. L'auteur présumé, Shamsoud Din Jabbar, un Texan de 42 ans, a pris la fuite après des échanges de tirs dans lesquels deux policiers ont été blessés. Il est décédé après, a précisé la police fédérale. Un drapeau du groupe État islamique a été retrouvé dans son véhicule. Le FBI considère cette attaque comme un possible acte terroriste. Il tente de déterminer si l'auteur de l'attaque avait des liens avec des organisations terroristes. Le président Joe Biden a fermement condamné l'attaque, affirmant qu'aucune violence ne pouvait être justifié et qu'aucune attaque contre les citoyens américains ne serait tolérée. Donald Trump a dit que l'attaque prouve qu'il avait raison sur les démocrates. Il a promis que sa future administration assistera la ville de Nouvelle-Orléans dans l'enquête.
Dans une courte allocution depuis la résidence de Camp David, proche de Washington, le président Joe Biden a indiqué que quelques heures à peine avant l'attaque meurtrière de la Nouvelle-Orléans, le suspect avait publié sur les réseaux sociaux des vidéos indiquant qu'il était inspiré par l'État islamique. Ces vidéos témoignent aussi d'un désir de tuer, a ajouté le président américain, qui a précisé tenir ces informations du FBI, la police fédérale. Par ailleurs, une responsable du FBI a dit à la presse ne pas penser que Shamsoud Din Jabbar était le seul responsable et considérait qu'il aurait agi avec de potentiels complices. Les réactions se multiplient dans le monde après l'attaque de la Nouvelle-Orléans. De nombreux dirigeants en Europe et ailleurs ont condamné l'attaque tout en exprimant leur solidarité avec le peuple américain. Synthèse de quelques réactions avec Lionel Gaïma.
La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a indiqué qu'il n'y avait pas d'excuse pour une telle violence. Alors que les autorités poursuivent leur enquête, nous exprimons notre solidarité totale avec les victimes et leurs familles en cette période tragique, a-t-elle déclaré sur la plateforme X. De son côté, le président français Emmanuel Macron a adressé ses pensées aux familles de victimes et aux blessés de l'attaque de la Nouvelle-Orléans. Le chef de l'État français s'est rendu en décembre 2022 à la Nouvelle-Orléans, fondée au début du XVIIIe siècle par les colons français et aujourd'hui frappée par le terrorisme, selon le président. L'ambassadeur allemand aux États-Unis, Andreas Michaelis, s'est dit choqué et attristé par les événements horribles survenus à la Nouvelle-Orléans. Mes plus sincères condoléances aux victimes et à leurs proches, l'Allemagne vient de subir une attaque sur un marché de Noël. Nous sommes unis avec les États-Unis pour condamner de tels actes de violence. L'attaque à la Nouvelle-Orléans est survenue 10 jours après celle contre un marché de Noël en Allemagne, à Madenburg. Un psychiatre saoudien installé depuis 2006 dans cette ville avait fauché la foule à bord d'une BMW, tuant 5 personnes et blessant plus de 200 autres.
Toujours ici aux États-Unis, un véhicule pick-up de marque Tesla a explosé hier mercredi devant l'hôtel Trump de Las Vegas, provoquant la mort d'une personne. Sur des images diffusées sur les réseaux sociaux, un véhicule électrique Cybertruck gris garé devant l'entrée de l'hôtel explose dans un énorme nuage de fumée. Il y a une personne décédée à l'intérieur du Cybertruck, a déclaré Kevin McMahill, shérif de la police de Las Vegas, lors d'une conférence de presse, précisant que 7 autres personnes souffraient de blessures légères. Lors d'une courte allocution mercredi soir, Joe Biden a fait savoir que les autorités enquêtaient pour savoir s'il y avait une quelconque connexion possible entre cette explosion et l'attaque meurtrière à la Nouvelle-Orléans. Le président américain ajoute tant que rien ne l'indiquait jusqu'à présent. « Nous pensons que c'est un événement isolé », a déclaré pour sa part Jeremy Schwartz, un agent du FBI.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité africaine à présent. Au Burundi, la Commission électorale nationale indépendante a rejeté toutes les listes des candidats d'une coalition de partis politiques pour les élections législatives de juin. L'opposant historique Agathon Rwasa fait partie de ceux visés par la mesure. Jacques Aristide.
La liste des candidats pour la députation dans la province de Boutanierera dans le Nord a été rejetée parce qu'elle comprend 3 députés siégeant à l'Assemblée nationale au nom du parti CNL, non membre de la coalition, ce qui est en contradiction avec l'article 112 du Code électoral et l'article 7 de la loi sur les partis politiques, a indiqué la CENI. Il s'agit des députés Agathon Rwasa, Euphrasie Moutenzinka et Anatole Karorero, a précisé la commission électorale. Cette coalition, un Burundi pour tous, constituée de 4 partis, le FRODEBU, le CODEBU, le FDES et le CNDD, a été reconnue officiellement par le ministre burundais de l'Intérieur le 17 décembre. Elle a présenté des listes de candidats aux législatives dans les 5 nouvelles provinces du pays. Selon le calendrier électoral, les candidats écartés ont 2 jours pour faire un recours devant la Cour constitutionnelle, qui a ensuite 8 jours pour rendre sa décision avant que la CENI ne rende publique la liste définitive des candidats retenus le 13 janvier prochain.
En RDC, de nouvelles attaques des rebelles ADF, forces démocratiques alliées, un groupe armé affilié au groupe État islamique, ont fait au moins 12 morts dans la province du Nord Kivu, selon des sources locales. Au moins 8 personnes ont été tuées dans le village de Bilendu, a indiqué Samuel Kageni, président de la société civile locale, un chiffre confirmé par d'autres sources locales et un représentant du gouvernement provincial. Les ADF ont également tué au moins 4 personnes dans le village de Mangoya et incendié des maisons dans les 2 localités, selon ces même source. Le bilan est encore provisoire car une fois partis de ces localités, les assaillants ont tué des personnes sur leur route et incendié des motos, a affirmé un autre représentant de la société civile. Le Mali a dénoncé mercredi la persistance des actes d'ingérence de l'Algérie voisine. Le ministère malien des Affaires étrangères dit avoir appris par voie de presse les propos du chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, commentant à nouveau la stratégie malienne de lutte contre le terrorisme dans un communiqué qui ne reproduit pas les propos incriminés. Le ministère dit avoir déjà dénoncé la proximité et la complicité de l'Algérie avec les groupes terroristes qui déstabilisent le Mali et à qui elle a offert le gîte et le couvert. Bamako invite Alger à cesser de faire du Mali un levier de son positionnement international. Et dans le reste du monde, les livraisons de gaz russe à l'Europe via l'Ukraine ont définitivement cessé mercredi. Ceci après l'expiration d'un contrat signé entre les 2 parties fin 2019 et maintenu malgré l'invasion du pays par la Russie. Rosine Mounezero.
Aucune livraison n'était prévue mercredi, selon des données publiées la veille par l'opérateur ukrainien GTSO, actant l'expiration d'un contrat quinquennal établi en 2019 entre la compagnie ukrainienne Naftogaz et le géant russe Gazprom. Celui-ci avait annoncé l'arrêt des livraisons avant même l'officialisation par Kiev de la fin du contrat de transit. Dans le contexte d'un différend financier avec cette ex-république soviétique aux aspirations européennes, cette fin du transit est l'une des plus grandes défaites de Moscou, s'est félicité mercredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Lorsque Vladimir Poutine a pris le pouvoir en Russie il y a plus de 25 ans, le volume annuel de gaz envoyé via l'Ukraine vers l'Europe s'est élevé à plus de 130 milliards de mètres cubes. Aujourd'hui, le transit de gaz russe est à zéro, ce qui constitue l'une des plus grandes défaites de Moscou, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. Dans ce contexte tendu, le cours du gaz européen a atteint mardi la barre symbolique des 50 euros le mégawattheure, une première depuis plus d'un an. Cet arrêt, qui concerne plus du tiers des livraisons totales de gaz russe à l'Europe, inquiète plusieurs pays de l'Est européen, notamment la Moldavie, particulièrement vulnérable, et la Slovaquie, qui a averti de graves conséquences.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, c'est avec Abdourahmane Dia.
Le Sénégal et la Mauritanie annoncent l'ouverture du premier puits de leur gisement marin, une étape importante devant conduire à la commercialisation du produit, indique un communiqué conjoint publié mercredi. Le projet de Grand Tortue Armeim à la frontière avec la Mauritanie est développé par le Britannique BP avec l'Américain Kosmos Energy, la société mauritanienne des hydrocarbures et Petrosen, une société sénégalaise. Il devrait produire environ 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an. Le Nigeria va créer cette année une société nationale de garantie de crédit pour faciliter les prêts bancaires aux entreprises et aux particuliers, a déclaré mercredi le président Bola Tinubu dans un discours. La société s'associera à des institutions gouvernementales, au secteur privé et aux institutions multilatérales. Un récent rapport du cabinet de conseil McKinsey souligne que le chiffre d'affaires des start-up africaines spécialisées dans les technologies financières ou fintech pourrait atteindre 47 milliards de dollars en 2028 contre 10 milliards de dollars en 2023. Cette prévision positive du secteur serait due au faible taux de bancarisation, une forte croissance démographique et une hausse de la pénétration du mobile money et des smartphones sur le continent.
Et maintenant, l'actualité sportive, c'est avec Nanit Talani. Salut Nanit.
Bonjour Oumfa. Bonjour à tous.
Chan, Cannes, Bâle et plus, on démarre par les moments sportifs incontournables de 2025 en Afrique et dans le monde. Mais d'abord, le handball pour ouvrir l'année.
L'année sportive dans le monde commencera par la Coupe du monde de handball du 14 janvier au 2 février au Danemark, en Croatie et en Norvège, avec la participation de 5 équipes africaines, l'Égypte, l'Algérie, le Cap-Vert, la Tunisie et la Guinée. Le 27 janvier, le tirage au sort de la CAN 2025 se tiendra à Rabat au Maroc. Ensuite, du 1er au 28 février, le championnat d'Afrique des Nations se déroulera en Afrique de l'Est, Kenya, Ouganda, Tanzanie, pour découvrir le successeur du Sénégal, champion en titre.
La Basketball Africa League, un parcours à travers le continent africain.
L'édition 2025 de la BAL se tiendra entre avril et juin. La conférence Kalahari ouvrira l'événement à Rabat au Maroc du 5 au 13 avril, suivi de la conférence Sahara à Dakar au Sénégal du 26 avril au 4 mai. Kigali au Rwanda accueillera la conférence Nil du 17 au 25 mai avant la phase finale, la finale 8 en Afrique du Sud du 6 au 14 juin. Plus tard, du 25 juillet au 3 août, l'afro-basket féminin se tiendra en Côte d'Ivoire.
4 clubs africains au Mondial des clubs 2025 aux États-Unis.
2025 sera aussi marqué par la première édition du Mondial des clubs à 32 équipes, prévue du 14 juin au 13 juillet 2025 aux États-Unis. Cet événement verra la participation de 4 clubs africains, Al Ahly du Caire, l'Espérance de Tunis, Mamelodi Sundowns de Pretoria et le Wydad de Casablanca.
Football féminin et athlétisme, deux disciplines au rendez-vous de septembre à octobre.
Au cœur, il y aura la CAN féminine du 5 au 26 juillet au Maroc, où l'Afrique du Sud défendra son titre face à 11 autres nations. En octobre, les qualifications pour le Mondial 2026, élargies à 48 équipes, se termineront, offrant à l'Afrique 9 places directes et une chance supplémentaire via les barrages. Avant cela, en septembre, les championnats du monde d'athlétisme se tiendront au Japon.
Enfin, clôture de l'année sportive 2025 avec la CAN au Maroc.
La CAN, qui se déroulera au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, marquera la fin de l'année sportive 2025. Le tournoi verra la participation de grandes équipes, dont le pays hôte, le Maroc, le champion en titre, la Côte d'Ivoire, mais aussi le Sénégal, l'Algérie et l'Égypte. Toutes ces compétitions promettent de faire de 2025 une année riche en événements sportifs.
Merci Nani. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mouhamadou Oumfa, toujours avec vous. Maintenant, la partie magazine. Les mesures de prévention de la violence armée aux États-Unis ont été renforcées sous l'administration Biden, mais de grands changements politiques sont attendus lorsque le président élu Donald Trump prendra ses fonctions en janvier. Quelles sont les attentes des propriétaires d'armes à feu et des activistes en faveur du contrôle des armes à feu ? Réponse dans ce reportage de Véronica Balderas Iglesias, relaté par Dili Dico.
Les droits des propriétaires d'armes à feu seront protégés sous sa direction. C'est une promesse que le président élu Donald Trump a dit qu'il tiendrait rapidement.
Au cours de mon second mandat, nous ferons reculer toutes les attaques de Joe Biden contre le deuxième amendement. Les attaques sont rapides et furieuses. Elles commenceront à la minute où Biden quittera la Maison-Blanche.
Selon les centres de contrôle et de prévention des maladies, près de 47 000 personnes ont été tuées par des armes à feu en 2023. Le président Joe Biden a mis en place une série de mesures qui, selon les chercheurs, contribuent à faire baisser ce chiffre. Jen Paoliou-Konis est directrice de la politique et de la programmation au centre Johns Hopkins pour les solutions à la violence armée.
Cela inclut les fonds de l'American Rescue Plan pour soutenir les programmes communautaires d'intervention contre la violence. L'administration Biden a renforcé la capacité de l'ATF et du FBI à réglementer le secteur.
Les défenseurs des droits des armes à feu estiment que ces mesures violent le droit de porter des armes, un droit garanti par le deuxième amendement de la Constitution des États-Unis. Ils sont convaincus que Trump les supprimera. Alan Gottlieb est vice-président exécutif de la Second Amendment Foundation.
Nous ne pensons pas qu'ils aient fait quoi que ce soit pour assurer la sécurité des gens. Tout ce qu'ils ont fait, c'est empiéter sur le droit du deuxième amendement.
Ses partisans du second amendement souhaitent également que Donald Trump tienne sa promesse de signer une loi sur la réciprocité du port d'armes. Cette loi permettrait aux détenteurs de permis de port d'armes de se rendre dans les 50 États avec leurs armes. Nick Clark est président du groupe de défense des droits des armes à feu, Wisconsin Carry.
Dans chaque État traversé, il faut consulter les lois spécifiques sur les armes à feu et dans certains cas, le port d'armes n'est pas autorisé dans ces États. C'est donc quelque chose que nous aimerions voir au niveau fédéral.
Camden, le fils de Frank Cimorelli, qui avait des problèmes de santé mentale, est décédé quelques semaines après s'être tiré dessus en 2022 avec une arme achetée légalement. Frank Cimorelli souhaite que les mesures de sécurité concernant les armes à feu, telles que le renforcement des vérifications des antécédents, restent en place sous l'administration Trump. Écoutons Frank Cimorelli, père d'une victime de suicide par arme à feu.
Vous savez, si un père ou une mère veut garder une arme à la maison pour se protéger, je ne vois aucun inconvénient. Mon problème est le suivant. Pourquoi votre droit de posséder une arme éclipse-t-il mon droit de garder une arme en dehors de ma maison?
Les enquêtes du centre de sondage Pew Research montrent qu'il existe un large soutien bipartisan au sein du public pour empêcher les personnes souffrant de troubles mentaux d'acheter des armes à feu, mais les Américains restent profondément divisés sur la plupart des propositions de politique en matière d'armes à feu.
This is the voice of America. Washington, D.C.
L'ONU estime que le monde produit plus de 430 millions de tonnes de déchets plastiques chaque année, la source la plus importante étant les emballages à usage unique. Valdia Baraputri de la VOA présente des initiatives visant à réduire ces déchets dans ce reportage rendu par Nani Talani.
Le supermarché Trace à Vienne, en Virginie, près de Washington DC, dispose de tout ce dont les clients ont besoin, à l'exception des conteneurs. C'est vrai, pas de sacs, pas de boîtes, pas de bouteilles. Si vous souhaitez rapporter quelque chose chez vous, même des liquides comme de l'huile de cuisson ou du shampoing, vous devez vous préparer. Les visiteurs apportent leurs propres conteneurs, les pèsent, remplissent ce dont ils ont besoin et achètent ensuite leurs marchandises au poids. Mala Perso est la propriétaire de Trace.
J'ai eu l'idée d'ouvrir le magasin en 2018. J'en avais assez de voir autant de déchets et de plastique dans les poubelles. Les tasses à café à usage unique, les emballages à usage unique. Je savais que de moins en moins de choses allaient être recyclées.
Madame Perso a ouvert Trace en 2021. D'après les données de Greenpeace, seuls 6% des déchets plastiques aux États-Unis sont recyclés et elle espère que des magasins comme le sien pourront faire la différence.
En 3 ans d'existence, nous avons rempli 21 000 récipients. Il ne s'agit que de récipients, sans même compter les produits qui ne sont pas emballés dans du plastique comme les barres de shampoing que nous vendons.
Les clients disent qu'il n'est pas aussi facile de faire ses courses dans un magasin de recharge que dans un magasin à service complet, mais que cela leur donne un sentiment d'accomplissement. Phil Cochrane de Virginie est un client régulier.
On se sent très bien parce qu'on fait un petit geste pour l'environnement. Le personnel est très amical et serviable et il est aussi très impliqué dans la protection de la planète et de l'environnement. Alors oui, ça fait du bien.
À Tacoma Park, dans le Maryland, un autre magasin de recharge et de zéro déchet, Fulfillery, propose même ses propres produits. L'un d'entre eux est une pastille nettoyante universelle fabriquée à partir d'huile de cuisson recyclée. Rini Saha, cofondatrice de Fulfillery, explique comment l'utiliser.
On l'ouvre. Une fois que vous l'avez ouverte, vous la coupez. Vous ajoutez de l'eau et elle devient un très bon nettoyant. Ça nettoie le granit, le bois.
Rini Saha a ouvert le magasin il y a 4 ans. D'après elle, changer le comportement des consommateurs, aussi petit soit-il, est essentiel pour réduire les déchets.
Si la seule chose qu'ils peuvent faire est d'utiliser des pailles réutilisables, cela permet tout de même d'économiser près de 500 pailles par an, n'est-ce pas? Nous espérons simplement que les gens essayent d'arrêter le gaspillage là où ils le peuvent.
D'après le groupe américain de recherche d'intérêt public, une organisation de défense des droits, environ 1300 magasins appliquent le concept zéro déchet aux États-Unis et ce nombre est en augmentation. La moitié d'entre eux sont des magasins de recharge et les autres des magasins qui proposent un large choix d'articles rechargeables.
Au Kenya, les drones transforment les livraisons de fournitures médicales en offrant un moyen plus rapide et plus fiable d'atteindre les zones reculées. En surmontant les problèmes logistiques, les drones permettent aux médicaments essentiels et au sang d'arriver rapidement dans les centres de santé ruraux, ce qui permet de gagner du temps et de sauver les vies. Plus de détails avec Alexandrine Holognon.
Le mauvais temps et les routes en mauvais état peuvent rendre difficile l'acheminement de médicaments vitaux dans les régions reculées du Kenya. Aujourd'hui, une entreprise s'envole avec des drones pour livrer des fournitures médicales à ceux qui en ont besoin. À bord, des fournitures médicales, notamment des médicaments contre le VIH et des kits de dépistage, une précieuse cargaison destinée aux villages isolés. Un autre drone est prêt à être lancé ici, dans le comté de Kisumu au Kenya.
La pluie rend très difficile l'accès à ces installations par les modes de livraison traditionnels. Ce que nous sommes en mesure de faire, c'est de surmonter tous ces obstacles en tirant parti de la logistique aérienne pour fournir à ces personnes des médicaments vitaux, même lorsqu'elles ne sont pas en mesure d'accéder à leurs produits de base par les moyens de transport terrestre traditionnels.
Les médicaments sont chargés dans les drones, dans des boîtes munies d'un cerf d'air et d'un parachute, deux mesures qui garantissent un atterrissage en douceur lorsqu'ils retombent sur terre.
La boîte est munie d'un insert d'air. Vous pouvez le voir, nous l'utilisons pour amortir le produit lorsque vous le mettez dans la boîte. En outre, elle est également équipée d'un parachute. Ainsi, lorsque le drone déploie le parachute, celui-ci s'ouvre et retombe lentement sur le sol, protégeant ainsi les médicaments. Le personnel soignant peut maintenant récupérer les produits une fois qu'ils ont été livrés.
Selon le Conseil national de contrôle des syndromes, plus de 2 millions de personnes au Kenya sont mortes de complications liées au sida depuis 1986, date à laquelle le premier cas a été enregistré au Kenya. Si la prévalence du VIH chez les adultes âgés de 15 à 49 ans a diminué, passant de 9,1% en 2000 à 4,3% en 2021, Kisumu reste un point névralgique pour les infections chez les jeunes.
Les patients atteints du VIH doivent prendre leurs médicaments tous les jours et à une heure précise, faute de quoi, ils risquent de développer une résistance virale. Grâce à Zipline, nous sommes en mesure de livrer ces médicaments aux patients dans un délai de 15 à 45 minutes.
L'entreprise participe à des événements de sensibilisation au VIH, comme celui qui a eu lieu lors de ce match de football. Alors que le match est toujours en cours, un drone de Zipline survole le stade avant de déposer un colis rempli de préservatifs et de kits de dépistage du VIH.
La plupart d'entre eux viennent pour regarder le match, puis ils entrent sous la tente, bénéficient de services et rentrent chez eux bien traités. Au niveau de l'établissement, toute l'année, nous ne pouvons recevoir que 10 ou 15 jeunes pour des tests de dépistage, du VIH et d'autres services. Mais ici, lors de l'événement, nous pouvons en recevoir 40 ou 50 en une journée.
À la fin du match, des dizaines de jeunes ont été testés, ont reçu une éducation sexuelle vitale et ont été approvisionnés en contraceptifs. Pendant ce temps, le drone Zipline est depuis longtemps de retour à la base, prêt pour une nouvelle mission dans les villages reculés de cette région du Kenya.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Au Soudan, alors que la guerre dure depuis plus de 20 mois maintenant, entre les deux généraux rivaux, Abdel Fattah al-Burhan et Mohamed Hamdan Daglo, des habitants de Port-Soudan, ville portuaire située dans l'est du pays, ont célébré le nouvel an dans la prière avec un sentiment de peur, mais aussi d'espoir pour le retour à la paix. Thierry Kaoré nous en dit davantage.
Dans une église catholique de Port-Soudan, décorée de guirlandes, les prêtres et les fidèles catholiques ont célébré le nouvel an dans une ambiance festive et dans l'espoir de retrouver la paix dans le pays. Mohamed Abdel Hassan est un avocat soudanais.
Mon souhait est que la paix règne au Soudan, que Dieu éteigne les feux de la guerre. Chaque goutte de sang versée au Soudan est une perte énorme.
Des drapeaux sont hissés sur des bâtiments publics et dans certains lieux de réjouissance pour l'occasion, mais un climat d'inquiétude règne tout de même, comme le souligne Fatma Mohamed, habitante du Soudan.
Bonne année à tous. Nous espérons revenir dans nos maisons sains et saufs cette année. Que cette guerre se termine pour que nous puissions revoir nos maisons.
Les festivités du Nouvel An se sont déroulées dans le calme cette année, mais les habitants de la région, essentiellement des personnes déplacées, disent vouloir surtout rentrer chez eux et retrouver leurs proches en 2025. Zohal Salah est une étudiante soudanaise.
J'espère que ce sera une année heureuse, sans séparation ni tristesse et sans aucun des problèmes que nous avons rencontrés en 2024. D'un point de vue personnel, je veux être proche de mes proches. L'année dernière, j'ai perdu plusieurs personnes qui m'étaient chères.
Fatma Mohamed, habitante du Soudan, est également pressée de retrouver ses proches.
Nous en avons assez d'être déplacés. J'espère que les autorités nous entendront et arrêteront la guerre pour que nous puissions retourner dans nos maisons et que nos enfants puissent retourner dans leurs écoles et vivre dans un pays calme et heureux.
Depuis avril 2023, la guerre entre l'armée soudanaise et les forces paramilitaires de soutien rapide a fait des dizaines de milliers de morts dans le pays et déplacé plus de 12 millions de personnes.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mohamedou Oumfa, ainsi va le monde aujourd'hui. Plus d'informations 24 heures sur 24, c'est sur notre site internet voaafrique.com, sans oublier nos différentes plateformes digitales Facebook, YouTube et X. Merci de rester à l'écoute des programmes de VOA Afrique. À très bientôt.